France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui.
Olivier Norek, écrivain et scénariste.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Nous sommes le groupe Grinoir et nous voulons un changement radical que seuls les plus grands profiteurs peuvent engager. La rançon demandée est de 20 milliards d'euros. Avant que vous vous étrangliez, poursuivit le ravisseur, je vous précise que nous ne voulons pas garder un seul centime. Mieux, nous ne demandons qu'à vous rendre cet argent le plus vite possible. Vous faites un pas vers la planète et je vous récompense. Ce n'est pas autre chose que le système des bons points à l'école. Vous récupérez 5 milliards lorsque vous aurez prononcé l'arrêt complet de tous les nouveaux projets dont l'extraction de gaz ou de pétrole n'a pas encore commencé. Pour 5 autres milliards, il vous faudra abandonner toute participation à l'extraction de pétrole bitumineux au Canada, dont les émissions de CO2 sont 30 fois supérieures à celles du pétrole normal. Encore 5 milliards lorsque vous aurez mis fin à vos importations de gaz de schiste à travers la planète. Et pour recevoir vos 5 derniers milliards, vous devrez créer une fondation pour la recherche sur les énergies renouvelables. Avec la voix hautaine et agressive de ceux qui refusent de perdre, PDG se défendit encore. Une fondation pour la recherche. Vous voyez bien que vos alternatives aux énergies fossiles ne sont pas prêtes. Vous n'êtes qu'un utopiste. Sans notre pétrole, le monde serait plongé dans le noir en moins d'une semaine. Le ravisseur, vous avez 24 heures pour vous organiser. Dans le cas contraire, vous assisterez à une exécution capitale à laquelle je ne prendrai aucun plaisir, mais devant laquelle je ne reculerai pas. Je n'ai pas le choix. Vous ne nous laissez plus le choix. Le deal est simple, autant qu'historique. Une silhouette s'approcha de la caméra. Son masque de panda balafré prit tout l'espace de l'écran jusqu'à en devenir flou. Demain, même heure, ordonna-t-il. Puis, il interrompit la connexion. Bonjour Olivier Norek.
Bonjour.
Ce texte est extrait de votre roman Impact, publié il y a 4 ans et qui vient de sortir en bande dessinée avec Fred Pontarolo chez Michel Lafon. C'est votre roman le plus écolo et c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie de vous rencontrer pour en savoir plus sur votre parcours singulier de policier devenu écrivain à succès. On va donc revenir sur votre histoire, sur votre intérêt pour la chose écologique. Une histoire qui commence le 2 août 1975 et voici le petit journal de votre naissance, concocté par Valérie Ayestaraï et Vincent Samuel Delina.
Le journal Paul Amar.
500 km de bouchons aujourd'hui encore sur les routes de France, affluence record, 2 fois plus d'embouteillages que l'année dernière. Françoise Clostre, toujours détenue par les rebelles Toubou dans le nord du Tchad, Stéphane Hessel, chargé d'obtenir sa libération, revient à Paris. Helsinki, c'est terminé. Les 35 chefs d'État se sont séparés, la conscience tranquille, mais la détente n'est pas assurée pour autant dans plusieurs régions du monde. Bonsoir. Le spécialiste de la météo parle de la sécheresse dans plusieurs régions de France, mais c'est surtout dans l'ouest du pays que la situation devient alarmante.
Oui, et le Morbihan, par exemple, qui voit chaque jour ses prairies se dessécher au soleil, a été déclaré zone sinistrée. La Charente a également des problèmes. Ses rivières ne sont plus que de minces ruisseaux. Dans le sud, les Corses, pourtant habitués au soleil et à la chaleur, s'inquiètent. Il n'a pas plu depuis presque 2 mois et les réserves de certaines communes s'épuisent. Quant à la Haute-Garonne, une partie importante de sa récolte de blé est compromise.
Voilà pour le journal de votre naissance, Olivier Norek, 2 août 1975. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre toutes ces infos?
Ça m'inspire qu'évidemment, le journal du 2 août 1975, je ne m'en souviens pas beaucoup puisque j'avais un jour. Donc évidemment, il faudra attendre quelques années quand même pour que je m'intéresse aux infos. Mais à l'écouter rétrospectivement, je constate qu'en fait, ça fait... quasiment. Alors en fait, ça a commencé déjà en 1800, fin des années 1800, où on nous alertait déjà sur la conscience écologique. Il y a eu la MIT qui a fait un rapport en 1972. En 1975, on nous parle de sécheresse. Donc ouais. Ça fait tellement, tellement longtemps qu'on nous avertit.
Jour de chaleur donc en Haute-Garonne. C'est à Toulouse que vous êtes né, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais. C'est votre berceau familial ou pas?
Alors on est tous nés à Toulouse, mais en fait on a quitté Toulouse. Je vais dire que j'ai un endroit de cœur, c'est l'Aveyron. Ouais. Et qu'après, ma mère était directrice d'école, mon père était Danemark et j'ai dû déménager une bonne dizaine de fois avant mes 18 ans. Donc voilà, ça fait un peu... Bah, je me la joue pas, mais je crois que je ne viens de nulle part.
Ouais, et que... C'est difficile d'avoir des racines quand on a autant déménagé.
C'est difficile d'avoir des racines, mais ça permet d'avoir une vie intérieure très riche, puisque justement, quand on déménage énormément, on n'a pas le temps de se faire des amis. Donc on se crée un monde personnel, un univers privé, un univers fantasmagorique, imaginaire. Et donc je suis parfaitement capable. Si, on pose souvent la question, qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte ou avec qui vous partiriez? Alors moi, je peux tenir très bien 3 ans tout seul sur une île déserte sans parler à personne, ça ne me pose aucun problème.
Et votre monde intérieur, comment vous l'avez nourri alors? Avec des livres principalement?
Oui, comme je vous l'ai dit, mes deux parents étaient d'abord enseignants. Donc la culture, ça a toujours été quelque chose de capital dans la maison, à la maison. On n'était pas une famille qui donnait de l'argent de poche, par exemple, mais par contre, j'avais crédit illimité pour acheter des livres ou des 45 tours ou des 33 tours.
Ah oui, pas mal.
Ouais, donc la culture, ça a toujours été quelque chose de très important, et le livre aussi. Donc, j'ai le cursus habituel d'un gamin qui a eu de la chance. Donc, j'aime lire. Puis après, il y a eu évidemment toutes les collections des bibliothèques, bibliothèque verte, bibliothèque rose. Et puis mes rencontres avec Roald Dahl, et puis plus tard avec Stephen King, avec Michael Ende. Et puis après des livres un peu plus complexes. Mais la littérature, c'est comme la musique. On commence pas par un opéra de 6 heures. On commence par des choses simples.
Est-ce qu'enfant vous rêviez d'être policier? Parce que ça fait partie des métiers dont rêvent les petits garçons, parfois. C'était votre cas ou pas?
Oui, c'est vrai qu'on entend parler effectivement.
Vous aviez votre costume de flic ou pas?
Non, j'avais pas de costume de flic, j'avais un costume de cow-boy et un costume de shérif, mais vous allez me dire que c'est à peu près la même chose.
C'est ça.
C'est vrai qu'on parle beaucoup ces temps-ci du choix de carrière dont on devrait parler aux enfants dès la maternelle.
Oui, c'est ça.
C'est vrai qu'on manquait de magiciens et de cosmonautes, et de princesses et de sorciers. Est-ce que j'ai voulu être flic? J'ai voulu être journaliste, j'ai voulu être policier, j'ai voulu être cosmonaute, évidemment, comme tout le monde. Mais très rapidement, j'ai compris en fait que je ne serais jamais aussi épanoui qu'en trouvant une fonction, une raison qui serait dirigée vers les autres. Donc capitaine de police, ça en a fait partie. Faire des missions humanitaires, ça en a fait partie. Et aujourd'hui, écrire des bouquins, ça en fait partie aussi.
Le nom de Norek est connu ici à Radio France.
Bien joué, oui. Oui,
pendant
12 ans, mon père a été directeur général de Radio France. Et donc j'étais petit et à mon souvenir, je faisais des parties de cache-cache dans Radio France.
C'est vrai.
Je crois même que j'ai fait du vélo dans les couloirs de la direction.
Vous connaissez tous les recoins finalement.
Oh là, oui, je connais tous les recoins. J'ai mes endroits chouchous, FIP, le Move, mais voilà, FIP, j'y ai pas mal de.
Et vous auriez pu faire du journalisme ou de l'animation? Est-ce que la radio, au moment, ça a pu vous faire rêver ou pas du tout?
Non, j'y ai pas pensé. Et puis, il n'y a pas de népotisme dans ma famille. C'est-à-dire que si jamais j'avais dit à mon père que je voulais travailler à Radio France, je sais très bien ce qu'il aurait fait. Il m'aurait mis au poste le plus bas, sans le dénigrer. Il m'aurait mis au poste le plus bas en me disant, voilà, c'est le maximum que je peux faire pour toi, le reste est entre tes mains.
En 1982, votre père était chargé de mission formation des personnels de police. Et on a retrouvé une archive de TF1 où on l'entend à ce sujet.
Avec les propositions de Gaston Defer, la police aurait carte blanche. Elle pourrait interpeller tous les citoyens et leur demander leurs papiers à tout moment. Autre prérogative, la possibilité pour tous les policiers de tirer, comme les gendarmes, après sommation, et non pas seulement en cas de légitime défense.
Il convient que les policiers, lorsqu'ils sont dans leur activité, puissent dominer parfaitement l'arme administrative qui leur est donnée. En conséquence de quoi, on multipliera les stages de tir, on multipliera les dotations de munitions d'entraînement. Le deuxième axe, c'est que ces policiers aient une meilleure maîtrise d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sachent garder en toutes circonstances leur sang-froid.
Olivier Norek, en 1982, vous êtes môme encore, hein?
Oui, je suis môme, mais c'est... Alors déjà, j'entends la voix de mon père tout jeune, donc c'est très particulier. Et mon père, il a été, je vais dire une ombre, mais il n'y a rien de négatif. Mais par exemple, quand j'ai commencé mon métier de policier, j'ai commencé par gardien de la paix. Et donc, en arrivant à l'école de police, à l'école des gardiens de la paix, je suis convoqué par le directeur qui me dit « Vous êtes Olivier Norek, le fils de Claude Norek. Savez-vous que grâce à Claude Norek, ceci, ceci, ceci et cela, pour les gardiens de la paix, notamment un changement des méthodes de recrutement. Il fallait à l'époque une dissertation. Mon père y a ajouté de la culture générale, de l'histoire, de la géographie. Il y a rajouté du droit. Et donc, voilà l'ombre de mon père qui me poursuivait même dans ce métier de policier, et puis je deviens lieutenant, et donc je fais l'école des officiers de Canécluse, et à ma grande surprise, je suis aussi convoqué par le directeur qui me dit « Mais vous savez qui a acheté cette école à Canécluse ?» Je dis « J'imagine que ça doit être mon père, encore une fois.
Ouais. »
Et donc voilà, donc je ne l'ai pas dit aux autres étudiants de Canécluse, parce que Canécluse, justement l'école de Canécluse est loin de tout, et mon père avait choisi cet endroit exprès pour qu'il n'y ait pas de divertissement, et que les élèves ne soient pas déconcentrés dans leurs études. Et puis ces temps-ci, Mes parents maintenant sont à la retraite, mon père et ma mère sont devenus potiers, qui est un métier qu'ils ont toujours profondément aimé. Et maintenant on rentre dans leur magasin à Conques et les gens disent « mais vous êtes Claude Norec, le père d'Olivier Norec ».
Ah oui,
les choses se sont inversées.
Voyez, l'ombre s'est inversée.
L'ombre s'est inversée à mon grand plaisir.
Ouais. Mais là, donc, vous aviez 7 ans hein, au moment de cette archive de 82. L'entendre parler comme ça de police, ça a pu quand même jouer peut-être pour votre destin, non ?
Alors, en tant qu'énarque, évidemment, il a eu 27 métiers différents. À l'époque, le métier de policier, il ne m'en parlait pas beaucoup. Et puis, je dois vous avouer aussi que quand on est parent, j'imagine qu'on n'a pas envie que son gamin bien subissent le quotidien d'un policier. C'est quoi le quotidien d'un policier ? C'est rencontrer ce que l'homme représente de pire. C'est rencontrer l'autre quand il chute, quand il dérape. C'est rencontrer l'autre quand il est blessé. C'est une vision de la société qui maltraite un peu aussi l'âme. Puis c'est un métier aussi qui est dangereux. Donc je pense pas que mon père ait eu très envie que je sois policier.
Vous qui lisiez beaucoup, est-ce que vous écriviez déjà petit ou pas ? Ce goût de l'écriture, il est arrivé quand en fait ?
Alors absolument pas. Moi, j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Même mes cartes postales étaient illisibles. L'écriture est venue bien après. C'est pas des reproches que je fais à l'enseignement, parce que l'enseignement a cette tâche très très compliquée de devoir expliquer d'une même manière à tous ces enfants qui sont tous différents. Alors pour la plupart des enfants, on rentre dans un certain moule qui permet effectivement de comprendre cet enseignement. Et puis il y en a quelques-uns qui passent par les mailles du filet. Il y en a quelques-uns qui ne réussissent pas à être touchés, mais j'en veux pas du tout à l'enseignement, et l'enseignement n'a absolument pas vu que j'étais un littéraire. Aussi parce que quand on me demandait de raconter quelque chose en rédaction, dissertation, on me demandait d'écrire des choses qui ne me concernent pas. Donc j'avais pas les mots, ni le vocabulaire, ni la sémantique, j'avais encore moins les odeurs, les couleurs, les textures, les goûts, ce qui fait que c'était très difficile pour moi d'écrire. Et c'est pas pour rien que quand je me suis mis à écrire, j'ai raconté l'histoire d'un flic qui a mon âge, qui bosse dans le 93, à la section enquête et recherche.
Oui, c'était vous quand
voilà, en gros c'était moi.
Ouais. Et ça, vous avez commencé à l'écrire quand, ça, en fait ?
Ça, j'ai écrit en 2013.
Donc vous n'étiez plus flic déjà ou
J'étais déjà policier quand j'ai écrit mon premier roman.
Donc il y a eu une période de transition.
Oui, j'ai participé à un concours de nouvelles sur un site internet qui s'appelle auféminin.com qui faisait à l'époque des concours de nouvelles. Et donc j'ai participé de manière anonyme et j'ai écrit une toute petite nouvelle de 3 ou 4 pages. J'ai eu la chance de gagner le 3e prix et c'est là que, dans les membres du jury, il y avait des gens de maison d'édition qui m'ont conseillé d'écrire un livre parce qu'en fait, dans cette nouvelle, tout le monde m'avait pris pour une femme. Ils avaient dit à l'époque, parce que ça se disait à l'époque, mais je pense que c'était déjà une erreur, que j'avais une écriture féminine.
Ce qui ne veut rien dire, on est d'accord.
Oui, voilà, ça ne veut rien dire, il n'y a pas d'écriture féminine ni masculine. Il faut quand même voir que les auteurs de polars les plus difficiles à lire, et parfois les plus pervers, et parfois les plus manipulateurs, sont en fait des femmes, comme Claire Favant, Karine Gibel, Maud Maillérass, Barbara Abel. Donc voilà, il n'y a pas d'écriture féminine. On va dire que j'avais une écriture sensible, qui leur a fait penser que j'étais une autrice femme.
Ouais.
Et donc, comme j'étais flic, ils se sont dit, bah écoute, si tu gardes cette écriture assez sensible, mais que tu nous racontes le quotidien un peu rugueux et testostérone du métier de flic, on aura peut-être un objet pas encore trop vu, pas encore trop lu.
Ouais. Est-ce que l'association du mot flic et sensible va bien ensemble ou pas ?
Bien sûr, mais elle est dangereuse.
Pourquoi ?
Elle est dangereuse parce qu'en fait, les sentiments parasitent les déductions. Si, par exemple, j'ai en face de moi l'archétype même du salaud, évidemment, je vais essayer de diriger mes pensées dans cet archétype-là, de rester dans la case que je lui ai donnée. Et si j'ai en face de moi une victime superbe, sublime, avec l'œil qui frise et des larmes dans la voix, je vais avoir tendance à la croire.
Donc il y aura un biais.
Et donc il y aura un biais.
Ce qui est très gênant quand on est policier.
Voilà. Alors, d'où l'avantage. Le premier avantage, c'est que je suis ultra, ultra sensible. Je suis une éponge et il a fallu vraiment que je bloque cette sensibilité quand j'étais policier. Maintenant que je suis auteur, je peux enlever ma carapace et me laisser totalement pénétrer par tous les sentiments. Mais quand on est flic, effectivement, le concept d'empathie mène parfois à un mauvais jugement.
Mais il est interdit quasiment ce concept ou pas ?
C'est pas qu'il est interdit, c'est qu'on a l'outillage pour. C'est-à-dire qu'on a des conseils, des avocats, on a des psychologues police qui vont aider les victimes. On a tout un arsenal, tout un aréopage de gens qui sont là justement pour ce métier, qui est le métier du soutien à la victime. Nous, notre recherche, c'est une recherche de la vérité. Il m'est arrivé une fois, dans une enquête terrible, de consoler le père et la mère d'une jeune victime qui avait fait une overdose médicamenteuse. Et puis les pompiers sont venus me voir pour me dire que le corps était beaucoup trop froid et que les parents nous avaient menti. Et moi, j'étais en face de parents qui avaient perdu leur enfant. J'étais très jeune policier, je crois que c'était ma troisième semaine en police judiciaire. Et je me retrouve sur l'épaule gauche avec un père, sur l'épaule droite avec une mère, et je me laisse totalement envahir par l'empathie, parce que je me dis, mais évidemment, comment ça pourrait être un autre scénario, comment ça pourrait être différemment? Et me voilà à les consoler tous les deux, quand le pompier me dit, le corps est beaucoup trop froid, les parents vous ont menti, j'ai donc consolé les assassins de cette fille.
La sensibilité, l'intuition, c'est finalement aussi des ingrédients qui peuvent vous emmener peut-être plus vite sur la résolution des problèmes, non, quand on est policier?
Oui, c'est le concept très, très sherlockien de la lecture à froid. C'est ce qu'on appelle une sorte d'intelligence de la vie. C'est pas du tout être un intellectuel, c'est l'intelligence de la vie. C'est réussir à rentrer dans une pièce et essayer de lire cette pièce, essayer de lire la personne qui est en face de nous, essayer de comprendre le non-verbal, essayer de comprendre les minuscules gestes, les micro-expressions. Tout ça, c'est capital. Ça n'est pas une preuve, c'est une direction d'enquête.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'avoir justement été dans ce métier de policier très épanoui? Est-ce qu'à un moment justement où vous ne vous êtes plus senti épanoui, et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus épanoui dans les littératures que dans ce métier de flic?
C'est différent, parce que le métier de flic, pour quelqu'un qui très tôt a compris qu'il ne s'aimait pas beaucoup, le métier de flic, il est fabuleux, parce que vous vous levez le matin en vous disant, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour l'autre? C'est ça l'ADN du policier, hein, faut pas se tromper, c'est qu'est-ce que je peux faire ce matin pour aider l'autre? Si un policier vient me voir et me dit qu'il a un autre moteur dans ce métier, comme l'intérêt pour les armes, l'intérêt pour la violence légitime, l'intérêt pour de la traque des assassins, c'est pas une bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, c'est: il y a une victime, comment je peux faire en sorte que sa vie soit meilleure? Comment je peux faire en sorte de rétablir une notion de justice dans une situation injuste? Comment je peux aider? Comment je peux être là pour l'autre? Donc ça, c'est ultra épanouissant, parce que c'est grâce au regard de l'autre que je vais trouver ma place. Maintenant, j'ai un autre épanouissement. C'est l'épanouissement du partage. Ça y est, j'ai pu enlever ma carapace, mon uniforme, je peux me laisser pénétrer par les émotions, et puis je n'ai plus de doute à avoir quand un lecteur ou une lectrice vient me voir pour me parler de mes bouquins. Je ne suis pas en train de chercher si elle me ment ou pas, je ne suis pas en train de chercher si elle se joue de moi ou pas. Les relations sont beaucoup plus claires et beaucoup plus honnêtes. Et puis c'est vrai que quand j'ai été policier, souvent j'ai été insulté, montré du doigt, dénigré, et là aujourd'hui j'ai une vie de romancier qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus apaisante, et qui me permet d'avoir des expériences comme celle-là aujourd'hui.
Et un romancier qui parle d'écologie.
France Inter. La Terre au carré.
Notre implication est totale, et dans l'écologie, et dans le respect des normes de sécurité. Oui.
Françoise Itter, pour complément d'enquête. Monsieur Taquian, derrière cette usine, il y a un lac. Ce lac était une zone de pêche, il est aujourd'hui sinistré. Les poissons sont impropres à la consommation. Les résultats des tests sont sans appel. Le lac est pollué depuis que votre usine s'est installée. Il y a un lien de cause à effet, et pourtant vous refusez toujours sa fermeture.
Et quel test? Qui les fait? Selon quelles normes? Tout le monde fait des tests. Nous aussi on fait des tests. Mais on les fait avec des laboratoires indépendants.
Voilà, extrait d'une série Le Monde ment sur France 2, dont vous avez signé le scénario. Olivier Noreg, vous êtes notre invité cet après-midi. Vous qui publiez en bonne dessinée donc ce roman Impact, qui vient de paraître chez Michel Lafon, avec les dessins de Fred Pontarolo. À quel moment la question écologique et climatique est venue vous titiller?
Alors, elle m'a toujours titillé comme elle titille tous les citoyens, parce qu'en fin de compte...
Presque, hein, pas tous.
Oui,
hein.
Je comprends bien. Mmh. Effectivement, on va reprendre. Parce que il y a ce truc qui est évident, c'est-à-dire que l'écologie, c'est pas un sujet, c'est le sujet. C'est le sujet qui doit infuser tous les nouveaux sujets, qui doit infuser toutes les nouvelles lois, toutes les nouvelles directives, tous les nouveaux projets. L'écologie, ce n'est pas autre chose que la simple sauvegarde de l'humanité, et puis la sauvegarde des générations à venir. Et puis on en voit évidemment les effets, on en voit les conséquences. J'ai l'impression que... Alors,
mais ce discours que vous tenez là...
Alors, le discours...
À partir de quand vous avez pu le tenir, justement?
Ce discours que je tiens là, il vient d'un constat. Le constat d'un obéissant. J'ai toujours été un obéissant, donc j'ai été flic, j'ai été militaire. Et l'obéissant, pour que ça fonctionne, il faut qu'il ait confiance en ce qui l'entoure, c'est-à-dire dans les institutions, dans le gouvernement, parce qu'il y a des droits inaliénables. Parmi ces droits inaliénables, j'ai le droit d'aimer qui je veux, comme je veux, j'ai le droit de croire en ce que je veux, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de me déplacer. Ce sont mes droits à moi et je ne les donne à personne. Il y a un droit, un seul droit, qu'on a donné à une autre institution. C'est le droit de la vengeance. Et ça, on l'a donné à la justice. Évidemment, si je mesure 2 mètres et que vous me frappez, ma vengeance sera bien plus violente que si je mesure 50 centimètres ou que si je ne suis tout simplement pas physiquement armé. Donc, pour pas que ce soit le chaos, on a dit que la justice allait gérer pour que la peine, la vengeance, soit équitable pour tous. Aujourd'hui, la pollution, c'est 10 millions de morts par an. Et je vois que la justice ne fait rien. Aujourd'hui, si j'ai un enfant, et que cet enfant, il naît dans une ville, eh bien, il aura entre 10 et 12 ans d'espérance de vie en moins. Les choses se dégradent, la planète se dégrade, les grandes entreprises en profitent, on est sur des super profits, justement. Personne ne fait marche arrière. Et je vois que ni la justice, ni le gouvernement successif ne me protègent.
Donc ça, c'est une prise de conscience qui est venue au fil de l'eau ou il y a eu un événement particulier qui a pu être le déclencheur de tout ça?
C'est celui de la légitime défense. En fin de compte, en étant policier, la légitime défense, c'est quelque chose qui revient souvent. Et la légitime défense, il faut qu'elle soit immédiate. Il faut que l'attaque soit immédiate, actuelle et réelle. Et que la réponse soit nécessaire, spontanée et proportionnelle. Actuellement, l'attaque, elle est immédiate, actuelle et réelle. 10 millions de morts par an, et mon espérance de vie qui recule à chaque fois. Et donc, est-ce que la réponse, elle est nécessaire, spontanée et proportionnelle? Non, pas du tout, il n'y a aucune réponse. Je suis donc en légitime défense de me défendre, et en légitime défense aussi de reprendre ce droit, qui est le droit donc d'être réparé, le droit d'être protégé, et ni cette justice, ni les gouvernements ne me protègent. Donc un jour, je me suis réveillé en me disant, mais en fin de compte, si je reprenais le droit à la vengeance, est-ce que je ne serais pas en légitime défense? Est-ce que je n'ai pas le droit de me défendre moi-même? Mais je le sais très bien, si tout le monde décide de se défendre soi-même, c'est le chaos en une semaine.
C'est pourtant l'argument d'ailleurs avancé par l'avocat de votre héros, Virgile Solal, hein, dans Impact, qui justement parle de légitime défense. Mm-hmm. Alors il faut peut-être resituer quand même, refaire un tout petit peu le pitch de cette histoire. Ce héros, il a été obéissant lui
tout
aussi d'ailleurs.
C'est un militaire.
C'est un ancien militaire, et il est devenu désobéissant du jour au lendemain quasiment. Enfin, il y a eu un événement
personnel. Qui le fait changer.
Et donc, il va kidnapper le PDG de Total. Mm-hmm. Voilà, c'est le début de l'histoire. Et pour, évidemment, lui demander une rançon, mais une rançon qui va servir précisément à la cause écologique.
Oui, et mieux que ça, c'est une rançon qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de rembourser. Parce qu'en fait, le PDG lui répond quelque chose de réel, il lui répond « Mais vous êtes bien gentil avec vos énergies vertes, mais si on arrête le pétrole, demain, on se chauffe tous à la bougie, et c'est le chaos en une semaine. » C'est vrai. C'est vrai. Et ça souligne quoi? Ça souligne un retard incroyable, impardonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de parler encore des énergies vertes qu'on connaît, il faudrait encore ouvrir des universités, des centres de recherche, parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui les capacités, justement, de mettre de côté les énergies fossiles. Donc, à ce moment-là, le PDG se moque même de mon écologiste en lui disant mais de qui tu te moques? Ouais. De toute façon, si on arrête le pétrole, on revient à l'âge des cavernes. Et il a entièrement raison. Il souligne le fait que nous ne sommes tellement pas prêts que nous ne les avons pas encore, ces énergies vertes.
Il s'en moque dans une position quand même assez délicate, hein, parce qu'il est...
Oui, il est un peu enfermé dans une cage en verre reliée à un moteur de voiture et il a à peu près 45 minutes pour prendre la bonne décision. Sinon, il va être étouffé, empoisonné avec son propre poison.
Donc on imagine Patrick Pouyanet, le PDG de Total.
Vous faites ce que vous voulez.
Dans cette situation, puisque c'est lui l'actuel PDG de Total. C'était aussi lui d'ailleurs quand le roman est sorti il y a 4 ans. Qui ont été vos références, vous, dans le domaine de l'écologie, pour avancer sur ce chemin-là de la réflexion?
Alors, évidemment, ça a été les rapports du GIEC. C'est facile
Mais vous les avez lus, les rapports du GIEC?
Mon Dieu, j'en ai lu des milliers de pages. Il y a aussi Aurélien Barraud, qui est quelqu'un qui a cette tendance que j'aime beaucoup de parler d'écologie sans parler de punition ni de menace. Et c'est, je pense, la bonne manière d'en parler, même si malheureusement l'urgence est tellement prégnante qu'on devrait justement menacer, alerter, faire peur. Mais il n'y a aucun projet qui avance sur la menace et la peur à part les dictatures. Et puis aussi, en ayant lu quelques livres et en voyant les différences entre les chiffres, entre les statistiques, entre les informations, eh bien, je me suis dit que j'allais mettre tout ça de côté et faire un point à ce moment-là de ce qu'est l'écologie aujourd'hui et quelles sont les avancées, quels sont les projets. Donc il y a eu autant de recherches que de me dire qu'il fallait que je fasse table rase et que j'écrive quelque chose qui ne soit totalement personnel avec des chiffres qui sont vérifiés par des scientifiques dont le métier est d'être scientifique et pas de simples chroniqueurs télé, quoi.
On va écouter Aurélien Barraud. Il était à votre place d'ailleurs dans La Terre au Carré. C'était le 14 mai 2022.
Aujourd'hui, si vous voulez, l'activité politique consiste à essayer de faire la même chose en polluant un peu moins. Ça n'a absolument aucun intérêt, parce que ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est à exterminer la vie. Aujourd'hui, la vie est considérée comme une ressource. Or, les ressources, on les utilise et on les use. Si on ne change pas de destination, le moyen par lequel on y arrive n'a aucune importance.
Un petit commentaire, Olivier Norek, sur ces que vous avez dû écouter en boucle.
Oui, alors j'avais pas dit menaçant, évidemment, on est tombé sur le moment où il est un peu plus vindicatif, mais je le comprends, le pauvre. Et je les comprends tous qui essayent de se battre à chaque fois et à qui on pose les mêmes questions. Est-ce que l'écologie, c'est important? Est-ce que l'écologie, on en parle encore? Ce qui est terrible, c'est qu'en fin de compte, il y a eu trois acceptions de l'écologie. La première, on est vers la fin des années 1800, et on parle de l'écologie comme de l'interaction entre des êtres humains entre eux et avec leur environnement. Ça, c'est la première vision de l'écologie. La deuxième, on est dans la seconde période des années 1900, et là, on parle plutôt d'une prise de conscience du changement climatique, mais aussi des effets néfastes de l'activité humaine sur l'environnement.
On parlait de pollution industrielle.
Et donc là, on parle de pollution, c'est exactement ça. Mais notez qu'on ne parle que, pour l'instant, d'habitat et d'environnement. Là, aujourd'hui, l'écologie, c'est quoi? L'écologie, elle est plus urgente, elle est plus inquiétante. Aujourd'hui, l'écologie, c'est trouver un équilibre entre production et consommation qui nous permettent la pérennité de l'humanité. Tout simplement, c'est comment on sauvegarde la vie des générations futures. Là, on ne parle plus d'environnement, on ne parle plus d'une notion un peu abstraite, on parle de vie humaine. Donc, sur à peu près 2 siècles, il y a cette évolution qui pousse vers justement la prise de conscience et l'urgence. Et nous, en 10 ans, on a fait l'exact chemin inverse. Il y a eu une prise de conscience générale avec les accords de Paris en 2015. Au lendemain des accords de Paris, hein, il y a eu un rétropédalage immédiat. Donc, il y a eu un report sur la régulation des gaz à effet de serre, un droit à créer plus de déchets, un droit à ne pas les recycler, une diminution de la taxe carbone, un abaissement des normes sur la qualité de l'air, une facilité de l'évasion fiscale.
Mais la liste peut être longue, parce qu'on peut la réactualiser d'ailleurs aujourd'hui,
tout à fait.
Hein, sur le nombre de reculs qu'il y a en matière d'écologie.
C'est à peu près la même chose.
Et donc,
comme je vous disais que c'est le truc inverse, il y a eu un rétropédalage. Après, il y a eu un renoncement. Et il est normal, ce renoncement. Parce qu'on parle d'écologie, on parle de quelque chose dont les effets en Europe auront vraiment lieu d'ici 20 ou 30 ans, même si on commence à en ressentir les effets. Mais aujourd'hui, on nous demande de réfléchir dans 30 ans, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai Gaza, j'ai évidemment l'Ukraine, j'ai les agriculteurs, les enseignants, le milieu hospitalier, les flics, j'ai la fin du mois, le frigo vide. En fait, on a la main sur une plaque chauffante, on est en train de brûler, et on nous demande de faire attention à l'incendie d'une maison qui est à côté. Je vais d'abord m'occuper de ce qui est essentiel. Donc c'est très difficile de ne pas renoncer, et aujourd'hui c'est le troisième point, et là c'est le point le plus critique, c'est l'aveuglement. Ça fait 3 ou 4 ans que je n'ai plus entendu le mot écologie dans la bouche de nos politiques. Tous les 5 ans, il y a un rapport qui doit être remis à la ministre de l'écologie, qui a un rapport sur l'environnement en France, et donc il devait être remis en 2024. Mais la ministre de l'écologie ne l'a pas trouvé assez positif.
Oui.
Alors elle l'a renvoyé pour faire une deuxième version. On est aujourd'hui à la 9e version. On n'a toujours pas de date de publication de ce rapport. C'est quand même assez fou.
Mais là, il y a eu une actualité avec Emmanuel Macron. Il y a eu un plan de planification, par exemple, il y a quelques semaines.
Oui, c'est super, les plans de planification.
Sur la question. Donc il y a des choses qui se disent. Donc on entend parler d'écologie dans la bouche
c'est très bien.
Des hommes et des femmes politiques. Mais ce n'est pas tellement suivi des faits, en fait.
Plan de planification, oui, c'est bien. Écoutez, avec un peu d'effort, on va peut-être avoir un numéro vert. Et donc là, je pense qu'on n'est pas loin de la résolution. Évidemment, c'est ironique. Moi, je me souviens du même président qui avait demandé à 150 citoyens de mettre en place les 150 activités clés qu'il fallait.
La convention
citoyenne pour le climat. Et où il avait promis qu'il écouterait chacune de ses propositions et qu'elle passerait même à l'Assemblée nationale. Et puis un jour, il s'est réveillé en disant, écoutez, en fait, j'ai pas le temps. Ouais. Et puis j'ai pas l'envie. Et puis j'en ferai aucune.
Donc ça, Olivier Norek, ça vous révolte, vous, en tant que citoyen?
Moi, ce qui me révolte, c'est les paroles. Moi, ce qui me révolte, c'est les paroles non suivies des faits. Parce que ces paroles, à force d'être répétées, elles sont dénuées, elles sont vidées de leur sens. Et c'est important, la parole. Parce que débattre avec les mots, se battre avec les poings.
Ouais, mais je parle vraiment de vous, là, parce que c'est important.
Ouais.
La révolte, même une certaine violence qu'on peut éprouver, justement, face à l'inertie, face à l'inaction, la colère, hein, mm-hmm. qui peut se transformer. Et c'est ce que vit votre personnage, là, justement.
C'est exactement ça.
C'est ce que vous, personnellement, vous pouvez éprouver. Et l'avantage d'être auteur, c'est qu'on peut, justement, inventer un personnage pour le vivre à votre place.
Tout à fait. Cette colère, cette violence, elle est en moi. Elle est en moi. Et j'ai donc créé un monstre. un monstre qui va décider de choisir la violence, parce que les mots, justement, et j'y venais tout à l'heure, débattre avec les mots, se battre avec les poings, quand tous les mots sont silenciés, quand les paroles sont vidées de leur sens, quand on n'écoute plus les alertes et les alarmes, qu'est-ce qui reste en fin de compte quand la parole n'existe plus, quand la diplomatie n'existe plus? Eh bien, il reste la violence. Et donc, cette violence, elle est en train de naître. Et un jour va arriver ce monstre.
C'est ça.
Je l'ai créé.
C'est ça. Parce
pour pas qu'il arrive.
Cette violence, vous la défendez pas alors, hein?
Alors, je la défends pas, c'est vrai qu'à l'écriture, je m'en suis délecté.
Ouais.
Mais dans une sorte de catharsis, évidemment, c'est la même chose. Mais c'est vrai que je m'en suis délecté parce qu'en fin de compte, tout va tellement dans le même sens et y a si peu qui est fait justement et les gens réussissent à chaque fois à s'en sortir. Par exemple, ces grandes entreprises pétrolières ont fait des super profits. Alors que le reste de notre société, justement, parlait de frigo vide et de fin du mois. Et eux, ils font des super profits. Et à chaque fois, ils n'arrivent toujours pas à investir. Ils n'ont toujours pas à réfléchir à ces nouvelles énergies. Et oui, ça me met en colère. Et oui, je suis tellement en colère que je crée un monstre et que je le fais tuer des gens, histoire de ne pas le faire moi-même.
Dont le PDG de Total. Est-ce que vous avez envoyé votre bande dessinée à Patrick Pouyanné ou pas?
Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas envoyé ma BD à Patrick Pouyanné, mais je crois que j'avais envoyé à son service le roman Impact, parce que sort d'un roman qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. Et ça a été ma grande inquiétude quand j'ai fait la bande dessinée. Je me suis dit, il va falloir que je fasse une mise à jour des 4 ou 5 dernières années pour voir toutes les évolutions sur l'écologie, histoire de ne pas me planter. Mmh. Et bien écoutez, sachez que je n'ai rien changé entre mon livre d'il y a 5 ans et la BD de maintenant, tant en fait, il n'y a aucun demi-tour qui est effectué.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Il ne faut pas avoir peur des mots. Vous savez, les gens qui attaquent des gendarmes avec des cocktails Molotov, qui par la terreur veulent empêcher les agriculteurs du vivre du fruit de leur travail. N'ayons pas peur des mots. J'essaye de nommer la réalité des choses et il y a eu effectivement un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme. Chacun a vu qu'on était très loin de Gandhi et des manifestations pacifiques.
La voix de Gérald Darmanin, c'était en octobre 2022 autour des manifestations de Sainte-Soline. Olivier Noreg, vous qui êtes ancien flic, ce terme d'éco-terroriste, qu'est-ce que vous en pensez ?
Justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La violence, elle naît quand ? Elle naît en dernier recours, à ne pas écouter, à ne pas avoir les mots, ou à silencier toutes ces paroles qui, depuis le MIT en 1972, nous alertent justement sur les énergies fossiles. À force de ne pas écouter, qu'est-ce qui reste aux gens pour se faire entendre ? Il reste, le cri, la violence verbale, et même parfois la violence physique, que je ne soutiens absolument pas, mais je me demande quelle est la raison qui a fait qu'ils ont été tellement acculés, qu'ils ont été tellement peu écoutés, qu'à un moment donné, il ne reste presque plus que ça.
Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut parler d'éco-terrorisme de la part des militants écologistes? Est-ce qu'il y a des cas d'éco-terrorisme, selon vous?
Alors, quand on attaque la police avec des cocktails Molotov, alors là, c'est le flic qui revient, évidemment, parce que moi, j'ai les fesses entre deux chaises, parce que j'ai d'un côté un mouvement, le mouvement écologiste auquel je tiens énormément, et puis d'un autre côté, il y a les béquilles de l'État, celles qui sont obligées de réparer tout ce que le gouvernement ne fait pas, les policiers. Donc les policiers sont au milieu de tout ça. Mais ils sont au milieu de n'importe quelle manifestation, sur n'importe quel sujet. Les flics sont la béquille de l'État et ça ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, on ne peut pas les utiliser comme ça à outrance. Passons. Si on parle d'éco-terrorisme, quand on me dit qu'on a mis de la peinture orange sur une œuvre d'art qui est protégée par 15 cm de verre, je me dis que ça va, on est encore loin vraiment d'un soulèvement dangereux. La prise des armes devient complexe. Mais dès le moment où on se met à attenter à la vie de policiers en leur envoyant des cocktails Molotov ou des bombes ou en incendiant leur voiture ou en les caillassant, là effectivement on arrive au point limite, c'est-à-dire au point de l'absence de conversation. C'est le lien social en fait qui est cassé à ce moment-là et donc il n'y a plus aucune conversation. Quand on en arrive à la violence sur des personnes physiques, c'est là où moi je ne peux plus tolérer cette méthode de combat, cette méthode d'engagement.
Mais pourtant, il n'y a pas eu de condamnation encore en France, justement, pour des infractions commises dans le cadre d'une entreprise terroriste. Il n'y a pas eu de condamnation.
Oui, parce que l'écologie, en fait, ne fait pas partie en fait du code de procédure pénale ni du code pénal. Alors à part dans le code des forêts ou ce genre de choses, où évidemment il y a tout ce qui est autour de la pollution et de la dégradation des habitats, mais dans le code de procédure pénale, vous le trouverez pas en fait.
Olivier Noreg, on a vu des gendarmes également réagir violemment par rapport à des militants autour de l'autoroute A69, hein, entre Castres et Toulouse. Des plaintes ont même été déposées contre la réponse des forces de l'ordre à l'encontre des écureuils. Est-ce que ça, c'est des images qui vous ont choqué ?
Si je refuse à l'écologie ce chemin de violence, je dois aussi évidemment le refuser du côté des policiers, mais le refuser encore plus. Quand on est flic, on passe un contrat. On n'est pas un citoyen, on est un super citoyen. On a des pouvoirs, on a des super pouvoirs. On a un flingue, on a une carte qui ouvre toutes les portes, un flingue qui finit toutes les conversations. Quand un policier vole, c'est pas un citoyen qui vole. Il doit être puni à la hauteur du contrat qu'il a passé. Un contrat de respect des lois. Donc, autant je suis pour protéger les policiers autant qu'il le faut, mais quand il y a une brebis galeuse, je suis vraiment pour la mettre de côté et vraiment pour que la peine soit exemplaire parce que nous devons être exemplaires. Donc, oui, moi ça me choque à chaque fois que je vois un policier utiliser la violence quand elle n'est pas légitime. C'est une insulte à toute la profession. C'est une insulte à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se lèvent le matin avec ce seul but justement, en se réveillant, l'ADN de la police. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour l'autre qui je vais pouvoir taper aujourd'hui ?
Olivier Norek, il y a un autre dossier qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est celui de la police de l'environnement, celle de l'Office français de la biodiversité, assez peu connue d'ailleurs des Françaises et des Français. Depuis plusieurs mois, cette police est sous le feu de la colère d'une partie du monde agricole qui lui reproche des contrôles humiliants à répétition. Je vous propose d'écouter le Premier ministre François Bayrou, c'était lors de son discours de politique générale en janvier dernier.
Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d'eau avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Et c'est donc une faute.
Olivier Norek, donc c'est une police qui doit défendre, qui est là pour défendre aussi l'environnement.
La police, elle défend les victimes. Et donc aujourd'hui, la planète est une victime. Notre nature est victime. D'ailleurs, la plupart du temps, moi je fais des polars, hein. J'écris des romans policiers. Donc dans un roman policier, il faut un assassin, une victime, une scène de crime. Aujourd'hui, pour l'écologie, c'est la même chose. L'assassin, c'est la pollution, la victime, c'est l'humanité, la scène de crime, c'est la planète. Donc, quand il y a une victime, quand il y a quelqu'un en péril, eh bien, il y a une police pour le protéger, ou une gendarmerie. Eh bien, quoi de plus normal, avec une nature, avec une forêt qui est en souffrance, qui est en peine, de voir naître effectivement une police des forêts, une police de la nature, une police de cette protection. Et cette méthode sémantique un peu facile de dire que la simple présence de ces hommes, parce qu'ils ont une arme à la ceinture et qu'ils viennent faire leur boulot de contrôle, est une humiliation. Bah, je trouve que c'est mettre de côté une mission totalement respectable et absolument nécessaire. Et puis ce concept d'humiliation, faut vraiment avoir peu de choses à dire justement sur cette police pour en venir à cette caricature-là de l'humiliation.
Les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique viennent de présenter 10 mesures pour apaiser les relations justement entre l'Office français de la biodiversité et le monde paysan. Et sur le terrain, donc les agents devront se montrer discrets avec le port d'armes. C'est ce qui est préconisé justement dans ces mesures. Est-ce que ça représente une menace pour la sécurité des agents, selon vous, de devoir cacher son arme, en tout cas de la rendre plus discrète ?
Alors, écoutez, si vous mettez votre manteau dessus, bah, il vous faudra une seconde et demie de plus pour dégainer. Généralement, c'est la seconde et demie qu'il faut pour pas se prendre une balle de l'autre côté. Bah, je pense pas non plus qu'on en soit quand même ni à couteau tiré, ni à canon tendu. Alors, s'il faut pour pacifier cette relation, cacher son arme, de toute façon, à la base, les policiers en civil ou les policiers en tenue, la plupart du temps, on a l'arme sur le côté, elle est pas totalement visible. Chez les policiers en civil, on a un vêtement par-dessus, justement, pour que ça ne se voit pas. Ils n'arrivent pas armes au poing, ils ont juste une arme sur le côté. Et si, évidemment, ça perturbe totalement un paysan de voir une arme, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a aucun paysan qui est perturbé par le fait de voir un policier avec une arme sur le côté. Sinon, c'est quand même une sensibilité assez à fleur de peau, tout de même. Je pense qu'on est en train de... Mais c'est tellement courant. Et c'est chouette, hein, de voir ça. Hein. C'est très, très intéressant, hein, la manipulation par la sémantique et par des mini-diversions. On est en train de parler de choses qui sont absolument pas intéressantes. La sensibilité de l'agriculteur quand il voit une arme sur un policier. C'est vraiment ça le problème ? C'est vraiment de ça dont on doit parler ?
En tout cas, c'est ce qu'il revendique, justement.
Oui, mais il y a cette capacité à attirer l'attention. Donc c'est juste un feu de côté. Mais cette capacité à attirer l'attention sur des choses qui sont tellement pas importante dans le débat afin de ne parler que de ça. C'est assez intéressant, c'est bien joué de la part de Bayrou. J'aurais aimé aussi que, dans son discours justement, je veux bien qu'il parle de la sensibilité des paysans quand ils voient des policiers faire des contrôles. J'aurais aimé aussi qu'il y ait une phrase, un mot, une respiration, un rien du tout autour de l'écologie. Et il n'y a rien eu. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait au moins 4 ans que le mot écologie, à part pour faire du bashing, que le mot écologie n'a pas été prononcé. L'écologie est mise de côté alors qu'elle est tout. Elle est tout et elle vise à sauvegarder les générations futures. Je suis tellement déçu à chaque fois de voir qu'on allume des contre-feux justement pour ne pas parler des vrais problèmes.
Donc c'est l'objet aussi de cette bande dessinée. Hein. Ça permet d'inventer en tout cas des personnages qui... font ressortir des choses aussi pour vous en tant qu'auteur et en tant que citoyen, c'est ce qu'on entend.
Et puis pour mettre en avant les choses qui comptent pour de vrai. Moi je veux bien qu'on parle de ces contre-feux, mais est-ce qu'on parle du fait que dans 20 ans il n'y aura pas un seul poisson comestible dans l'océan? Est-ce qu'on parle du fait que dans 15 ou 20 ans, c'est 500, 600, 700 millions de réfugiés climatiques qui vont remonter vers l'Europe et les États-Unis? Est-ce qu'on parle du fait que dans une trentaine d'années, on aura beau manger à s'en faire exploser le ventre, il n'y aura plus assez d'apports nutritifs dans les aliments et qu'il faudra quand même des compléments alimentaires, parce que les aliments, parce que les végétaux, parce que tout ça sera vidé justement de leur intérêt énergétique. C'est catastrophique et donc c'est vrai sujet. Et les 10 millions de morts par an de la pollution et ces endroits sur la planète qui ne sont carrément plus, qui ne permettent plus ne serait-ce que la vie des végétaux, la vie humaine et la vie des animaux. Il y a des endroits sur la planète qui sont désormais impropres à la vie humaine. Ça, j'ai envie d'en entendre parler et j'ai pas envie d'entendre parler de la sensibilité d'un paysan qui voit l'arme d'un policier. Je pense que les paysans, ils sont solides, c'est pas des chochottes, c'est pas des bichettes. C'est des hommes et des femmes qui sont parfaitement capables de subir un contrôle. Et si ce contrôle doit se faire avec une arme sur le côté, enfin, je vois mal les policiers débarquer armes au poing en leur demandant de se coucher. Il y a quand même une différence.
Enfin, ils peuvent être chochottes et bichettes s'ils veulent, d'ailleurs, les flics. Vous avez dit qu'ils pouvaient être sensibles aussi tout à l'heure.
Tout à fait, mais tout le monde peut être sensible. Et je vois effectivement que j'ai utilisé deux mots que j'aurais pas dû utiliser. Mais voilà, je doute de l'ultra-sensibilité, justement, qui les empêche même de voir une arme pas portée par n'importe qui, une arme portée par un fou dans la rue, elle me fait peur. Mais de voir un camion de CRS avec tous des armes et des armes automatiques, je me dis, oui, effectivement, ils sont là pour nous protéger. Et j'ai aucune frayeur de voir ça.
Merci Olivier Norek. Impact en bande dessinée avec les dessins de Fred Pontarolo. Et c'est aux éditions Michel Lafon.
Bien joué.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Et on termine avec vos messages et le répondeur de la Terre au Carré.
Bonjour, la Terre au Carré, c'est Pierre de Montpellier. Je voulais vous remercier et vous féliciter pour le beau trio de vos invités de ce jeudi. Et merci d'avoir parlé de l'écologie intégrale telle que le pape François l'a proposé, car cela rejoint un bon nombre de personnes parmi les chrétiens et les non-chrétiens, et une personnalité qui aura marqué son temps. Un grand merci pour vos émissions.
Allô, allô, bonjour les amis de la Terre au Carré, c'est Hélène de Cérest. Je sais que l'émission d'aujourd'hui va porter sur le Laudato Si, ce livre extraordinaire qu'a écrit notre cher pape François qui est parti. Voilà, je suis croyante, pratiquante parfois, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que j'ai la foi. Ce livre a été pour moi fondamental. Et c'est vrai que dans cette année 2015, je l'ai vu, le pape François venir à l'ONU, parler de quelles étaient ses croyances, comment il voyait les choses, comment c'était important de préserver notre bien commun, la nature, préserver la biodiversité et que on ne survivrait pas, nous les humains. Et qu'en ce sens-là, je rejoins en effet ce que hier disait Cyril Dion, ce rappel de ce qu'avait dit le pape François, à savoir qu'il faut faire la révolution, quoi. Il faut qu'on se bouge. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.
Bonjour Damien, maraîcher bio à Verdun. Je repique mes concombres dans ma serre et j'écoute votre émission dès que je le peux. Et j'entends la chronique sur le fromage et les problèmes du comté. Je suis pas certain que ce genre de chronique ait un super effet, car mettre en porte-à-faux les agriculteurs, producteurs laitiers ou qui ont des animaux dans leur ferme par rapport à ceux qui font des légumes comme moi par exemple, soit une bonne idée pour faire avancer les problèmes climatiques et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que faudrait laisser la parole à des agriculteurs plutôt qu'à des journalistes pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que moi, mes concombres, ils ont un petit peu besoin de fertilité. Et puis, je suis bien content d'avoir un petit peu de fumier à leur fournir. Et sans éleveurs, ça ne marcherait pas trop. Alors, concentrons-nous sur des choses peut-être plus importantes aujourd'hui. Et puis, laissons les vaches pâturaient dans les prés avant de trouver d'autres alternatives comme les engrais verts. Mais chaque chose en son temps. Allez, bonne journée à tous.
Bonjour, Clara de Pornic. Par rapport à ce qui a été dit sur le comté, je voulais vous demander si c'était à peu près la même chose pour le comté bio. On est quand même censé élever et respecter un peu mieux ces animaux en bio. Et deuxième chose, quels seraient du coup les fromages qui seraient un peu plus éthiques? Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, bonjour, Pierre, salarié agricole. J'appelle pour dire que c'est un peu encore dommage sur France Inter d'entendre des journalistes qui parlent d'élevage comme si c'était en maternelle et qui découvraient la vie. Ouais, pour faire du lait, il faut des veaux. Ouais. Et pas forcément en IA d'ailleurs, en insémination, il y a encore de la CI naturelle et puis la vie, c'est dur. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.
Merci pour vos messages. Continuez à nous appeler d'ailleurs pendant ce week-end. Profitez-en d'ailleurs pour nous laisser aussi vos messages si vous êtes en vacances. 01 56 40 45 45, c'est le répondeur de la Terre au Carré. Merci beaucoup à Nama Sardier qui a préparé le dossier aujourd'hui, Valérie Ayestaraï pour la réalisation et Selim Guéribi à la technique, Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de l'émission. Bon week-end.